Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Et salut à tous.
Et de Mordren.
Salut tout le monde.
B2G, je vais venir te retrouver. Je sais pas où tu es passé.
Tu lui as fait peur la dernière fois.
Voilà. Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de Fig qui va ouvrir ses investissements aux particuliers. On enchaînera ensuite sur Star Wars Battlefront qui aura droit à un DLC a priori gratuit. Mais on verra ça tout à l'heure. Une annonce d'un jeu que j'attends depuis très longtemps, c'est SOS The Final Escape 4, un jeu de survie contre la nature, n'est-ce pas ? On enchaînera ensuite sur le prochain Valkyria, et oui, encore lui, qui nous parle de mort définitive. Et enfin, pour terminer, le foutage de gueule de la semaine, putain, on nous prend pour des cons ! C'est... c'est les soldes sur Steam et l'augmentation de certains prix au préalable. On vous en dira plus tout à l'heure. Mais avant de commencer, nous avons une réponse officielle de la rédaction de Game Info apportée à un courrier que nous avons reçu récemment, n'est-ce pas ? C'était un courrier d'un certain vieux Pixel, je crois, qui nous demandait de participer à une émission. Alors apparemment c'était une émission qui allait inviter les professionnels de jeux vidéo, j'en parle pas plus parce qu'apparemment c'est un concept qui est en cours, donc je pense qu'il veut le garder pour lui. La réponse officielle de la rédaction de Game Info à cette demande, c'est que je ne vois pas ce qu'on irait faire dans ce genre d'émission. Je m'explique, c'est pas du mépris vis-à-vis d'émission ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi, nous ne sommes pas des professionnels du jeu vidéo, nous sommes des amateurs qui font une émission chaque semaine pour s'éclater, et je ne vois pas bien en fait quelle plus-value on pourrait apporter à ce genre d'émission. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane, parce que le courrier t'était aussi adressé en l'occurrence.
Oui, bah en fait le truc c'est qu'on n'a pas de point de vue d'insider dans l'industrie du jeu vidéo. Le seul qui pourrait éventuellement avoir ces infos là, c'est Mamie Lamy. Mais je te souhaite bon courage pour le choper. Shots fired. Mais ouais, non, en gros concrètement, enfin nous on est là, on fait ça surtout pour nous quoi, parce que ça nous fait plaisir. Mais concrètement, voilà, c'est on n'a rien de plus à apporter que la perspective de tout fan de jeux vidéo en fait. Donc
alors après au début c'est vrai que du temps ou un temps que des moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où c'était Olivao qui était en charge du site et où le site cherchait à faire des news, etc., enfin à être très actif. C'est vrai qu'on a pu être invité par moment à des conférences, etc., mais je veux dire ça, enfin c'est peanuts par rapport à l'historique du site, et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas participé à ce genre d'événement, en fait. Donc du coup, enfin je vois pas bien ce qu'on aurait apporté à ce genre d'émission. Et puis même très honnêtement, je pense qu'on n'a pas le temps aussi. Enfin, faut. Après, si c'est une émission comme ça, peut-être. Mais même, enfin, honnêtement, je pense pas avoir un point de vue suffisamment pertinent pour apporter quelque chose en plus par rapport à ce qu'on fait nous ici, en fait, quoi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, on gueule. Enfin voilà. Après, oui, effectivement, je connais 3-4 personnes dans l'industrie du jeu vidéo. Enfin, je vois pas vraiment ce que je pourrais apporter par rapport à un vrai professionnel du jeu vidéo. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut viser. Si tu cherches vraiment à faire une émission de qualité, il te faut des intervenants, si tu veux, qui vont vraiment t'apporter quelque chose, quoi. Donc, moi, je t'incite vraiment à contacter des vrais professionnels, des journalistes de Game Cult, de Game Blog. enfin, voilà.
On a dit des vrais professionnels. Hein.
Tu auras compris que la réponse est non. Pour ton invitation, même si ça fait plaisir, hein, je te cache pas que mon ego surdimensionné a fait un bond, mais en toute objectivité, enfin non. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à l'actualité et qu'on parle de Fig. Alors Fig, je le rappelle, c'est une plateforme qui avait été lancée par les petits gars de Double Fine, de In Exile et d'Obsidian, n'est-ce pas? On avait émis quelques doutes à l'époque, notamment vis-à-vis du fait que le mec qui gère ça, c'est un gars de chez Double Fine, et quand tu as travaillé pour une boîte qui est notamment connue pour pas savoir gérer ses budgets, ça fait très bizarre de se dire que ce mec-là ouvre un site de crowdfunding, quoi. C'est pas très rassurant déjà à la base. On s'était aussi dit que la première campagne qu'ils avaient lancée, vu le buzz qui avait été généré autour de ce lancement, c'était pas fameux, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont réussi à récolter leurs fonds, mais tout juste. Et donc, Fig a fait une annonce cette semaine, et cette annonce, c'est qu'ils vont ouvrir les investissements aux particuliers, parce que je le rappelle, la particularité de cette plateforme, c'est le fait que on peut récupérer de l'argent. C'est un peu comme, vous savez, comment il s'appelait ce site là français,
My Major Company.
My Major Company au début,
mais il y a longtemps.
Oui, il y a longtemps. C'est-à-dire que en gros, quand tu mettais de l'argent dans un projet, tu recevais un retour sur investissement, avec quelques nuances quand même par rapport à My Major Company. Pour commencer à recevoir des sous, il faut investir minimum $1,000. Donc déjà, c'est pas n'importe quel particulier qui ouais. va pouvoir recevoir des sous. Et il faut pas que la somme investie dépasse 10% de tes revenus annuels. Bon, logique. Mais dans tous les cas, je pense que c'est encore une fois un truc américano-américain. Parce que, je veux dire, si t'es pas américain, comment ils font pour vérifier tes revenus? Voilà. Déjà, ça. Plus le fait que, évidemment, c'est réservé aux studios américains, parce qu'ils sont basés aux États-Unis, qu'ils ont rien négocié avec les gouvernements français, bidule, machin, voilà. Donc, c'est encore un truc pour les Américains, et c'est pour ça aussi que j'étais assez hostile à cette plateforme au départ. C'est que, contrairement à Kickstarter, qui au moins s'ouvre à d'autres pays, on va encore financer des projets américains qui sont déjà bien financés sur Kickstarter, enfin bref. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais enfin déjà le concept, je suis pas convaincu. Et d'autant plus que là, on a eu la seconde campagne qui s'est arrêtée récemment et qui a récolté la somme de $100,000 sur 500,000 demandés.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un four.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau four. Pourtant, la campagne était assez solide. Après, je sais pas si sur Kickstarter ils auraient reçu les fonds qu'ils ont demandés. Je pense pas, très honnêtement. Mais pour le moment, le délire de déjà, alors faut que t'investisses $1,000 pour recevoir des sous, enfin c'est pas trop ma cam. Et puis même déjà à la base, je l'ai déjà dit ici, pour moi la différence entre Kickstarter et le système d'investissement classique, c'est que les gens qui investissent ne cherchent pas à gagner de l'argent. Tu dis pas ah oui ce projet je veux y filer des sous parce qu'il va me rapporter. Tu te dis je vais filer des sous à ce projet parce qu'il m'intéresse. Enfin, tu vois, la perspective est légèrement différente.
Ouais. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils commencent à développer la plateforme sur le côté business avant de développer la communication sur leur fucking campagne, tu vois. Mm. Et moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire réussir des campagnes successful pour faire parler de la plateforme et ensuite développer tout ce qui est derrière la plateforme. Donc moi, à mon avis, je pense qu'ils sont pris un petit peu les pieds dans le tapis parce que concrètement, pas grand monde connaît cette plateforme, quoi. Et tout le monde utilise encore Kickstarter, même s'il y a de moins en moins de projets JV en ce moment dessus.
En même temps, Noël.
Voilà. Mais il y a un véritable souci dans la stratégie de de Fig. Mm. C'est que, oui, sur le papier, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans la proposition de cette boîte. Mais est-ce qu'il y a assez de gens qui sont au courant que ça existe pour faire fonctionner une campagne de financement participatif? La preuve que non. Et je pense que en dehors des futurs projets d'Obsidian, de Double Fine, etc., qui vont évidemment réussir à drainer leur fanbase sur cette plateforme-là...
Encore que j'attends beaucoup la campagne de Double Fine, ouais. Parce qu'avec la réputation de merde qui se sont fait, notamment sur Steam...
Enfin, en tout cas, je pense qu'ils réussiront quand même. En fait, moi, je pense que l'erreur qui a été faite avec Fig, c'est qu'ils ont pas lancé la plateforme avec, justement, un des gros studios qui sont derrière, pour faire parler d'elle. Mmh. Et c'est là que on se rend compte que la deuxième campagne de financement participatif essuie un peu les plâtres. Ouais. C'est que, en un mois de financement, ils ont eu 20% de leur taux de financement. Donc, concrètement, c'est pas suffisant. Il faut revenir aux fondamentaux, à mon avis, pour Fig.
Bref, c'est pas quelque chose que je pense souhaitable pour le financement participatif à titre personnel. Et pour moi, la solution, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, c'est le fait qu'il faut que les gens qui investissent sur ce type de campagne puissent se faire rembourser s'il y a un problème. Il y a que ça qui peut solutionner le problème du manque de financement de certains jeux. Le reste, enfin,
Voilà. Mm.
Rien à ajouter, messieurs?
Nope.
ATH, tu as été silencieux jusqu'ici, tu vas pouvoir nous parler du DLC de Star Wars Battlefront.
Ouais, Star Wars Battlefront va accueillir un DLC gratuit.
Alors attention. ATH, répète, un jeu Electronic Arts avec un DLC gratuit.
Exactement.
Oh my fucking god.
C'est le jeu Star Wars qui est censé tout rafler sur son passage. Sauf que bah au Royaume-Uni, le premier chiffre de vente et bah il est toujours derrière Fallout 4 quoi. Mm. Pour sa première semaine de commercialisation, EA sont pas très très contents apparemment parce qu'ils espéraient faire plus. Pour revenir au DLC, c'est donc la bataille de Jakku qui va être présente dans le film Star Wars épisode 7 qui sera présentée.
Alors la bataille en elle-même sera pas dans le film, c'est la planète Jakku qui va y être. La bataille a lieu 29 ans avant la timeline de Star Wars Le Réveil de la Force. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, mais c'est bien d'être précis. On le voit dans le trailer de Star Wars, c'est la planète désertique. Mmh. Et donc, il y aura un dixième mode de jeu supplémentaire. Mmh. Et puis, en fait, cette carte-là sera coupée en deux parties. Mais ça sera en gros quasiment la même carte. Mais ça fait comme si vous avez deux cartes pour le prix d'une. Quoi.
Ok. Bon, je vais me tourner vers Mordren. Parce ouais. que il se trouve que Mordren, cet escroc... a réussi à se faire offrir Star Wars Battlefront, je ne dirai pas comment, mais c'est une véritable escroquerie.
Tout à fait.
Je voulais en profiter pour te demander tes premières impressions sur Star Wars Battlefront, parce que je me disais que ça serait intéressant, même si tu n'as pas beaucoup joué, d'avoir tes premiers retours à chaud là-dessus.
Ouais.
Et justement, vis-à-vis de ces premiers retours, est-ce que cette nouvelle t'enchante ou ça ne change pas grand-chose ?
En fait, bah j'en suis à peu près à 6-7 heures de jeu sur Star Wars Battlefront, donc très clairement, j'en suis bien loin de certains. Mais ce qui m'a frappé dans Star Wars Battlefront, c'est déjà la qualité du rendu, c'est-à-dire graphiquement, c'est ça poutre. Joue sur PC, hein, je le précise. Au niveau de l'ambiance sonore, c'est très très impressionnant. Moi, j'y joue au casque et c'est... j'avais jamais vu ça. Bon, après, les FPS AAA, j'y joue pas. Donc, c'est vrai que ça, là, pour le coup, j'avais plusieurs années de retard sur comment on faisait un FPS AAA et je me la suis pris en pleine gueule et effectivement, ça défonce. Au-delà de ça, par contre, je trouve que ça manque un petit peu de contenu. Alors, certes, il y a une dizaine de modes de jeu. Le problème, en fait, c'est que la communauté de joueurs PC en fait sur Star Wars Battlefront est pas si ouf que ça. J'ai vu hier que les pics journaliers c'était à peine 40 000 joueurs connectés.
Ce qui est pas ouf surtout quand tu compares à Ark par exemple. Ou...
Voilà et c'est pas ouf comparé à la PS4 par exemple qui est plutôt à 140 000 voilà. au niveau des pics. Ce qui m'a gêné moi c'est que bah en fait la communauté ne veut jouer qu'à un seul mode de jeu, l'attaque des marcheurs. Donc c'est l'Alliance Rebelle qui doit empêcher certains, sa forteresse entre guillemets, d'être attaquée par les fameux TBTT de l'Empire. Donc ça, évidemment, c'est un mode de jeu à 40 joueurs, donc 20 contre 20, et que tout le monde veut jouer. Le problème, c'est que les 8 autres modes de jeu, bah personne veut y jouer. Et c'est plutôt pénible niveau variété du jeu, en fait. Mmh. Du coup, moi, j'ai pas eu l'occasion de tester tous les modes de jeu, encore.
Ah oui, quand même. Ah oui, c'en est à ce point-là, quoi.
C'en est à ce point-là. La première soirée de jeu que j'ai faite, donc c'était le lendemain de la sortie, un truc dans ce genre-là, j'ai joué donc à ce mode-là. Le mode extermination qui est, en gros, défonce l'équipe adverse et chope le plus de kills par rapport à elle en 10 minutes. Donc voilà, pas très intéressant. J'ai fait le mode bataille dans les airs qui est vraiment génial. Pour le coup, c'est vraiment mon mode de jeu préféré.
C'est dommage qu'ils aient pas mis un mode simultané bataille dans l'espace avec ouais. Truc sur terre. Je dis ça, je dis rien.
Voilà, et ça pour le coup, c'est un petit peu ma critique la plus virulente, on va dire, sur Star Wars Battlefront, c'est que j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu à la va-vite, c'est-à-dire que en termes d'idées, ça aurait pu aller tellement plus loin. Que voilà, le simple fait de pas avoir des batailles spatiales en même temps que des batailles terrestres, déjà ça me gêne. Parce que concrètement, c'est quand même pas compliqué d'imaginer une bataille où tu as les troupes au sol qui sont en train de se battre à l'intérieur d'un croiseur interstellaire par exemple, et en dehors tu as des escadrons de X-Wing qui se battent contre les TIE Fighters. Ça concrètement, voilà, il faut pas être un génie pour l'imaginer. Et concrètement, ils avaient les capacités techniques pour le faire, et à mon avis, la suite de Battlefront a été produite sur un cahier des charges très très court et qu'ils ont pas eu le temps de le faire. Et ce qui me gêne aussi, c'est que le jour de la sortie, concrètement, t'as EA qui nous dit « Oui, il y aura plein de suites. » beaucoup, beaucoup de suites. Et je me dis que, ah ouais, donc voilà, ce que je pense là, en fait, ça va être fait d'ici l'année prochaine, tu vois. Je trouve ça pénible, d'autant plus que c'est un jeu quand même, avec le Season Pass, que tu payes environ 140 euros.
Voilà.
Petite précision supplémentaire, parce que tu parlais du nombre de joueurs sur PC que tu trouvais pas ouf en simultané. Mmh. Déjà, 70% des ventes de jeux ont été faites sur PS4.
Ouais.
Chiffre GFK, hein, c'est pas moi qui l'invente.
Mmh.
Après, ok, ils proposent un TLC gratuit, mais le Season Pass est quand même à 50 euros, comme tu l'as dit, Mordrain.
Ouais.
Ça fait un petit peu cher.
Rappelle-moi le prix du jeu de base, ADH, 70 euros, c'est ça?
Oui, c'est 70 euros, enfin, le prix d'un jeu classique, quoi.
Sur console, et puis 50 euros sur PC, j'imagine.
Sur le net, je l'ai vu à 40 euros sur PlayStation ouais. 4 et sur Xbox One, donc...
Comme d'habitude, ouais. Si tu l'achètes dans une boutique normale, tu paieras 70, et si tu vas chez Iggy Bon Tuyau, tu paieras 40.
Exactement. Donc voilà, si vous voulez vraiment y jouer, Internet, ce sera mieux. Je trouve ça quand même effarant, 50 euros de DLC, le Season Pass, on ne sait pas ce qu'il va contenir. Le DLC gratos, qui s'apparente plus pour moi déjà à une publicité qui est en rapport avec le film,
clairement.
Que vraiment un truc qui a été fait généreusement, on va dire.
Ouais. Mais est-ce que vous pensez que ça n'a pas été fait justement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un problème, les ventes n'étaient pas si bien que ça et que,
En fait, le DLC gratos, c'était une incitation à la précommande. Mmh. Parce que le DLC gratos, en fait, il est accessible aux gens qui ont précommandé le jeu une semaine avant sa sortie réelle pour tout le monde.
Évidemment, je pose la question naïvement.
Je me doute bien, tu es rodé à cet exercice. Mais concrètement, l'objectif était de faire une précommande, tout en ne spoilant pas trop l'arrivée de Star Wars, le réveil de la Force. Après, je trouve qu'ils sont pas mal démerdés en prenant une bataille qui a eu lieu bien bien avant le réveil de la Force, et dont on voit les conséquences dans le réveil de la Force, ne serait-ce que dans le trailer. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, le mode de jeu, pour en revenir à ça, pour en revenir au contenu du DLC, a l'air plutôt intéressant. C'est un peu le mode de jeu attaque des marcheurs en reverse. Ça va être un petit peu plus, stratégique, puisque l'Alliance Rebelle ne jouit pas d'autant de véhicules qui sont capables de faire de la mort de masse que l'Empire. Mmh. Ça peut être assez intéressant, mais en tout cas, je suis assez curieux de voir ce que va donner ce mode de jeu, d'autant que je sais du coup que tous les joueurs vont y jouer, puisque c'est un 20 versus 20, il y aura de quoi tester le mode de jeu.
Ah, et une question que je voulais te poser, est-ce que tu es convaincu pour le coup par le nombre de maps en fait? Parce que moi, très honnêtement, je t'ai vu jouer l'autre jour, j'ai l'impression que c'était très répétitif quand même.
Je t'avoue que j'ai pas compté exactement le nombre de maps qu'il y a.
Non, mais justement, c'est un sentiment plutôt que je te demande. J'ai l'impression. Tu étais satisfait.
J'ai l'impression qu'il y en a une demi-douzaine, mais il y en a certainement plus. En fait, ce qui se passe dans Star Wars Battlefront, c'est que tu te bats dans les mêmes environnements, mais selon le mode de jeu, la carte n'est pas exactement la même. Sur le mode attaque de marcheur, par exemple, si tu te bats sur Sullust, tu n'auras pas exactement la même carte que si tu te bats dans le mode l'extermination. De la même manière que tu n'auras pas la même map quand tu te fais les assauts aériens. Donc, au final, les environnements sont canons. Enfin, c'est vraiment magnifique. Mais effectivement, si t'enchaînes plusieurs parties sur Hoth, tu vas te dire, ouais, bon, ça commence à être répétitif. Mais au final, si tu varies un petit peu les plaisirs, moi, j'aime beaucoup Tatooine, par exemple. J'aime beaucoup Sullust, la bataille dans les airs, quand tu as le soleil qui se couche. T'as vraiment des sensations visuelles qui sont assez classes, quoi. En fait, la seule... critique que j'ai avec Star Wars Battlefront, c'est que il est tellement bien réalisé que t'en veux plus en fait. Et je trouve que c'est un peu chiche en contenu. Ne serait-ce par exemple, le bon exemple, c'est les héros que tu peux incarner. Il y en a que 6 quoi, 3 par faction. Et je pense que au niveau du Season Pass, il y aura des personnages. Enfin, c'est ça qui m'emmerde. Alors le problème, c'est que bon, je critique Star Wars Battlefront pour ça, mais concrètement, tous les AAA font ça.
En tout cas, je suis étonné par le manque de succès du jeu sur PC pour le moment, parce que bon, quand même, là, on est en plein buzz Star Wars, peut-être qu'une fois que le film sera sorti, ça augmentera, mais pour le moment, je suis dubitatif, hein.
Enfin, faut pas oublier que les critiques ont pas été dithyrambiques non plus, hein, sur Star Wars Battlefront, et que une semaine avant, il y avait quand même Fallout 4, et pour le coup, ça, c'est vraiment le jeu pour joueurs PC, de l'année, quoi. Donc ça me surprend pas tant que ça, au final.
les critiques n'ont pas été dithyrambiques, mais la plupart des gens qui achètent des jeux comme ça inspirés de grandes licences, ils se s'en retiennent pas forcément par rapport à la presse, quoi.
Oui, mais c'est alors comme, à ce moment-là, ils achètent sur console, à mon avis. Ah, pas vraiment sur PC.
En même temps, ils ont mis l'argent pour avoir l'exclusivité du bundle pack, je crois, avec la PS4. Mm-hmm.
Très joli, d'ailleurs, ce bundle. Hein.
Avec, oui, la PlayStation 4 Dark Vador et la manette, c'est ça.
Mm-hmm.
Après, moi, je pense que c'est un jeu qui va se vendre quand même sur le long terme.
Oui, c'est sûr.
Bah, déjà, quand tous les DLC seront sortis et que tu auras l'édition au jeu de l'année avec...
Ouais.
Non, mais comme d'hab, hein, ces jeux-là, faut les acheter une fois que la communauté est installée. Que...
Ouais, mais attends, avec l'édition au jeu de l'année... Mais sauf que 3 mois après, il y a le Star Wars Battlefront 2 qui va sortir, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça le problème.
Ouais, et, du coup, les serveurs vont se vider. Ah, merde. Ouais, ouais. J'avais oublié qu'on parlait d'un jeu multi, pas d'un jeu solo. Bon, allez. On va maintenant parler d'un jeu que j'attends beaucoup. C'est SOS The Final Escape 4. Alors, qu'est-ce que c'est SOS The Final Escape, pour rappel? C'est une licence où vous survivez contre la nature. Voilà. C'est un jeu de survie, mais attention, ce n'est pas un jeu de survie au sens auquel on l'entend actuellement. C'est-à-dire que, vous savez, maintenant, les jeux de survie, ce sont des jeux où tu vas récupérer des trucs, tu vas crafter des trucs, t'essayes... voilà, on te largue sur une map, tu construis ta petite baraque, et puis, voilà, tu fais ta vie tous les jours, voilà. Ça, c'est ça, le jeu de survie actuellement. Non, moi, je vous parle d'un vrai jeu de survie. C'est-à-dire que on te largue dans une ville, tu as des tremblements de terre, tu as des rats de marée, et good luck, HF. Voilà. La licence SOS de Final Escape, c'est ça, c'est l'homme face à la nature, en fait. Et pourquoi j'aime beaucoup cette licence? Justement à cause de ça. C'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment la quintessence de ce qui m'intéresse dans un jeu de survie, quoi. T'as des événements qui te dépassent complètement, en fait, et toi, tu dois t'en sortir, quoi. Alors, c'est une licence qui paye panine, si vous voulez, parce que... À l'époque où c'est sorti, la PS2, on va dire que elle avait un peu de mal, hein, sur les... Enfin, si tu veux, quand tu commences à péter des décors, à faire des craquelures dans l'autoroute, etc., la PS2, elle gère pas bien ça. Et du coup, ça ramait à mort. Enfin, c'était techniquement complètement à la rue. Mais ce concept-là, malheureusement, je ne l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Enfin, si, il y avait un jeu Wii, je crois, qui essayait de faire ça. Enfin, il essaie aussi de simuler le fait, quand tu te retrouves face à quelqu'un, est-ce que tu lui tires dessus, etc. Enfin, voilà, comment gérer la tension avec les personnes. Enfin, ça, c'était...
Ça, c'était le jeu de Ubisoft, c'est I Am Alive. Tu pouvais, en fait, braquer un mec. À ce moment-là, personne tirait. Et vu que les munitions, elles étaient extrêmement rares dans ce jeu-là... Tu pouvais pas te permettre d'aller gâcher n'importe quand. En fait, il y avait un espèce de jeu du mind control où il fallait un peu prendre l'ascendance l'un sur l'autre, tu vois. Donc t'essayais de t'approcher tout doucement en le braquant, tu vois, en espérant que lui il avait pas de balles si toi t'en avais plus. Ouais. Et puis en gros, c'était enfin, moi je trouvais ça super intéressant, mais après le jeu il était vraiment redondant, quoi.
Ouais. Donc bon, à part I Am Alive qui apportait ce côté-là au niveau, voilà, j'ai un flingue, je bluffe le mec et tout, j'ai jamais vu une autre série comme ça. Et très honnêtement, le fait qu'ils annoncent que ce jeu arrive enfin, parce que je rappelle qu'à la base, ce jeu, il devait sortir sur PlayStation 3, et qu'il a été annulé à cause des événements qu'il y a eu au Japon lors du tsunami. Bon, en l'occurrence, ils avaient aussi des soucis de développement, hein, mais
ouais.
Et on va dire que les événements au Japon ont plus été un prétexte qu'autre chose, quoi. Mmh. Mais en tout cas, c'est une série unique en son genre. C'est une série qui aborde un autre aspect du jeu de survie, et je suis content qu'on ait enfin la suite. Et je voulais te demander, Mandraine, toi qui es amateur de jeux de survie, est-ce que ça pourrait t'intéresser, ce genre de choses?
Oui, pourquoi pas, sur le pitch que tu viens de faire a l'air intéressant. Après, je t'avoue que moi, j'avais jamais entendu parler de cette série de jeux, donc je m'y intéresserai évidemment. Après, j'essaie un petit peu de me sevrer du des jeux de survie, parce que pour essayer de...
Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement. C'est une aventure plutôt linéaire, si tu veux.
Mmh.
Et en fait, t'as des obstacles naturels qui se dressent sur ta route.
D'accord.
Et tu dois réagir face à l'imprévu, quoi, en gros.
Ok.
Faudrait limite comparer ça à un survival horror où c'est pas les monstres qui te mettent des bâtons dans les roues, c'est la vague de 3 mètres qui t'arrive dessus.
Ouais, d'accord. Je vois. Bah écoute, ouais, je suivrai ça avec attention quand même pour voir un petit peu. Ça sort sur PS3, c'est ça?
Non, ça sort sur PlayStation 4. Ça devait sortir sur PlayStation 3 d'accord. À la base. Puis ça avait été annulé. Puis là, ça reprend. Alors, par contre, avertissement, hein, c'est un jeu japonais. Avec un studio qui a des petits moyens. Donc la technique, ça sera probablement pas ouf. Ouais. Ça sera de... Bon, après, Mordrain, j'ai envie de dire, il est habitué aux jeux moches. Hein.
Oui.
Voilà.
Oh oui.
Mais je tiens à avertir nos auditeurs les plus assidus. Voilà, enfin, c'est un jeu japonais avec pas beaucoup de moyens. Donc avec tout ce que ça implique en termes de visuel, etc. Si ça se trouve, ils trouveront même moyen de faire armer la PS4.
Après, je sais pas si le jeu est prévu pour l'Europe, quoi. Parce que je pense pas qu'il... Là, pour l'instant, il est prévu qu'au Japon.
Il me semble, mais bon, tu sais, avec le démat aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen qu'il le sorte même en démat, je pense qu'on l'aura. Et s'il pouvait avoir la riche idée de nous le sortir sur PC aussi.
N'en demande pas trop non plus. Hein.
Clin d'œil.
C'était des jeux qui existent, comme tu l'as dit, depuis l'époque PS2, mais ça a jamais fait des ventes ne serait-ce que intéressantes, quoi.
Oui, mais tu vois, justement, même à l'époque de la PS2, ils trouvaient moyen de sortir en Europe, quoi. On verra, hein, mais moi, je pense qu'à l'heure du démat, en tout cas, il y aura moyen qu'on l'ait en démat. Franchement, si à l'époque, ils le sortaient en Europe, je vois pas pourquoi aujourd'hui, ils le sortiraient pas en démat chez nous. Enfin, ils auraient tort de se priver, quoi, j'ai envie de dire.
Oui, juste une petite précision par rapport à ce qu'on disait sur I Am Alive et tout ça, la comparaison. Final Escape SOS, là, il n'y a pas du tout d'armes à feu. Hein.
Ah bah oui, non, ça c'est un jeu japonais, hein. Précisons-le, enfin, c'est non-violent, c'est toi face à la nature, point. Et il n'y a pas de mecs qui se baladaient avec des flingues, c'est pas du tout le délire, quoi.
Voilà.
Et de toute façon, même s'il y avait des mecs qui se baladaient avec des flingues, je pense qu'ils feraient un système où, en fait, t'es un civil et tu fuis, en fait.
Ouais, parce que en fait, dans I Am Alive, c'était vraiment après l'apocalypse, quoi, que t'étais là. Et là, l'apocalypse, ça se déroule en fait sous tes yeux, quoi, quasiment. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les tremblements de terre arrivent en temps réel, quoi.
C'est
et il y a pas de jeu qui propose ça, quoi.
Ah mais non, c'est la seule licence qui te propose de te balader sur une autoroute et puis il y a un tremblement de terre, il y a tout qui se casse la gueule, il faut que tu cours pour rattraper le bord de l'autoroute qui va pas se casser la gueule, donc enfin voilà.
Là, ça se déroule sous tes yeux et c'est ça qui est vraiment kiffant, quoi.
C'est ça qui est cool. Et justement, je me dis, tu vois, j'espère qu'ils sortiront sur PC parce que voir Mordrain en train de faire oh putain. ça c'est priceless. Bon, on va enchaîner sur le prochain Valkyria qui va reprendre les bonnes habitudes de la série. Donc je rappelle, il s'appelle Valkyria la Révolution Azure, n'est-ce pas ? Qui sera plus orienté à action. Enfin bref, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière où on parlait de son annonce. Mais ils ont également précisé cette semaine que, comme le premier Valkyria Chronicle, puis même les épisodes suivants, la mort dans le jeu sera définitive. Alors, là comme ça, déjà, je pense que j'ai éveillé l'intérêt des fans de Fire Emblem. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que apparemment, ces morts auront un impact sur l'histoire. En tout cas, sur certains événements qui étaient liés aux personnages qui seront morts, quoi. Alors moi, la question que je me pose, et ça, on n'aura pas la réponse, malheureusement, c'est est-ce que ce sera comme le premier Valkyria, où c'était juste des petites scénettes, voilà, sur certains personnages clés. Ou est-ce que vraiment ça aura un vrai impact sur l'histoire avec des pans d'histoire qui vont sauter, etc. Bon, pour le moment, on le sait pas. Mais en tout cas, ce genre de feature, ça m'intéresse. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mordrain, qui aime bien les Fire Emblem, justement.
Ouais.
Est-ce que tu as l'œil qui est brillant, n'est-ce pas?
De toute façon, la permadeath, c'est toujours un petit peu le summum de ce qu'on attend d'un RPG tactique. C'est sûr que si, en plus, c'est lié à des questions scénaristiques, c'est le nec plus ultra. Après, je me rappelle aussi que dans Fire Emblem, c'était géré, mais c'était pas non plus la folie. Hein. Donc j'attends de voir ça dans Valkyria Chronicles, qui est déjà un jeu que j'attends beaucoup, une suite que j'attends beaucoup, et si en plus tu as de la permadeath, c'est... d'autant plus intéressant.
Oui, bon, par contre, a priori, c'est pas vraiment un RPG tactique, donc...
Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette discussion qu'on avait eue la semaine dernière.
On attend d'en savoir plus, mais Déjà, un RPG normal où t'as ça, ça m'intéresse. Déjà, ouais. À la base. Ce qui m'attire vraiment dans ce genre de mécanique, si vous voulez, c'est le fait que ça te pousse à t'attacher. Enfin, moi, en tout cas, c'est des mécaniques qui me font m'attacher au personnage. C'est-à-dire que tu sais que ton personnage, il peut crever, quoi. C'est pas un immortel que tu vas amener jusqu'à la fin, même s'il se fait défoncer pendant une bataille. Ça rend les personnages vivants, quoi, si tu veux, quelque part. Le fait qu'il soit fragile et qu'à un moment donné, bah, il peut passer l'arme à gauche. Du coup, quand le personnage crève, ça te touche, quoi, quelque part. Ce qui manque, je trouve, à pas mal de jeux où finalement tu avances. Bon, de toute façon, le personnage y restera jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, sauf si événement scénaristique, on décide que voilà, il va crever. Et en fait, qu'un personnage puisse crever comme ça dans une bataille, ça dépend de toi, quoi, si tu veux. Et c'est ça la grosse plus-value, je pense, par rapport à certains jeux où dans le script on te dit que le personnage il va crever là. C'est que là, c'est ta responsabilité, en fait.
Ouais.
Et ça t'implique du coup en tant que joueur beaucoup plus. Et c'est ça que vraiment que j'aime avec ce type de mécanique, c'est que ce sont pas des mécaniques où tu es spectateur, ce sont des mécaniques où tu es acteur de la destinée de tes personnages et où ben tu as la responsabilité quand ce mec crève, bah voilà, il est mort. Ce que je trouve aussi intéressant des Fire Emblem, c'est que comme les jeux sont très difficiles, enfin en tout cas les anciens épisodes ou quand tu joues en difficulté max sur les épisodes récents, c'est le fait que des fois t'as pas le choix. C'est-à-dire que cette mission-là, t'as tellement galéré que tu vas pas te retaper toute la mission pour sauver ce personnage-là spécifiquement, quoi. Alors là, pour le coup, malheureusement, c'était pas le cas de Valkyria Chronicle, parce que il faut pas oublier quand même que il était assez permissif à ce niveau-là. C'est-à-dire que si t'arrivais, le personnage était mis KO, mais que tu arrivais à temps pour le sauver, en fait, tu envoyais un médecin qui le récupérait sur le champ de bataille et qui l'extrayait du champ de bataille, quoi. Le jeu était plutôt permissif à ce niveau-là, quoi. Par rapport à un Fire Emblem où là, en tout cas les anciens épisodes, ça rigolait pas. Hein. Il est mort, point. Voilà. Bref, voilà, c'est vraiment le genre de mécanique que j'aimerais voir le plus souvent dans un jeu vidéo, et pourquoi pas justement dans un RPG, qu'enfin, voilà, il y a un personnage qui crée, ben c'est ta faute, quoi, mec, et ça a un impact sur l'histoire. C'est toujours plus intéressant, je trouve, de faire ça plutôt que de faire un jeu où totalement scripté, quoi. En tout cas, qui gère cette variable-là, quoi.
Bah surtout que pour cet épisode là bah la mort sera vraiment présente au cœur du scénario, donc ils veulent vraiment que ça ait un impact sur le joueur d'après les dires du directeur du jeu. Ils en ont beaucoup parlé en interne et ils ont choisi d'opter pour un jeu qui sera assez difficile en normal, et ils ont ajouté donc le mode facile en gros pour les joueurs un peu plus novices qui voudraient pas trop galérer à et garder leur personnage jusqu'à la fin du jeu. Et je pense qu'ils ont pris les bonnes décisions en faisant ce genre de compromis, quoi.
Ouais, non, mais enfin ça c'est intéressant, tu vois, ça je savais pas qu'ils avaient choisi de mettre une difficulté un peu plus élevée en normal. C'est rare de nos jours, c'est rare.
Il y a certains événements qui vont impliquer certains protagonistes qui vont disparaître si ils meurent, tu vois. Oui. Donc il faut voir comment ça va être fait.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ce sera juste de l'ordre de la scénette et finalement ça n'aura pas un grand impact sur l'histoire, ou est-ce que ça aura vraiment tu sais des scènes fortes qui vont sauter parce que le personnage il sera mort, enfin tu vois, ou justement est-ce qu'on aura des scènes héroïques, enfin voilà, moi ça je suis très curieux vis-à-vis de ça. J'espère qu'ils vont assurer sur ce coup-là parce que vraiment il y a moyen de faire quelque chose de très très intéressant avec ça. Après par contre le petit bémol, c'est que je rappelle que les deux premiers Valkyria Chronicles en tout cas en termes de narration était assez curieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Valkyria Chronicles, c'est quand même le jeu qui te parle de camp de concentration mais à la japonaise, quoi.
Ouais.
Quand je dis à la japonaise, on sait toute la naïveté que ça implique, pour ne pas dire la mièvrerie, et enfin c'est un jeu qui vraiment était très bizarre à ce niveau là, quoi. C'est-à-dire qu'il était vraiment très japonais dans sa construction, quoi, narrative. Mais il essaie de traiter des thèmes vachement sérieux et ça collait pas du tout, quoi. Alors moi, je kiffe ça. Hein. C'est ce côté japonais. Moi, je suis à fond. J'étais à fond dedans. Hein. J'adorais les personnages et puis même les scènes où je veux dire, il y a un tank qui tire un obus sur une nana, elle le dévie avec son épée. Bon, voilà. Bon, c'est japonais, hein. Mais moi, je suis à fond dedans, quoi. Mais derrière ce genre de délire, ça ne plaira pas, je pense, justement, aux joueurs occidentaux typiques. Qui quand il voit un truc comme ça, s'attend à ce que ce soit traité un minimum sérieusement. Alors après, le 3 apparemment, ils ont vraiment fait des efforts au niveau de la narration et c'était beaucoup plus sombre. Donc j'espère que ça sera du calibre du 3 en tout cas. Et puis voilà, que ça sera traité sérieusement, que ce sera bien fait. Bon, messieurs.
Ouais.
On va terminer par notre coup de gueule, mon cher Morren. Parce que là, cette semaine, ça ne vous aura pas échappé, il y avait les soldes de Steam dont on vous a parlé récemment. Mm-hmm. Mais on a eu droit à la petite carotte.
Ah oui, la bonne grosse carotte, ouais. La bonne grosse carotte. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les soldes, c'était donc le week-end de Thanksgiving pour les États-Unis, le week-end du Black Friday, évidemment, pour les États-Unis. Et nous aussi, on a eu le droit à quelques petites soldes bien sympathiques sur Steam, d'ailleurs, dont on parlait la semaine dernière, en se demandant comment elles allaient changer. Et ça y est, on a compris comment elles allaient changer. Alors déjà... Déjà, purement objectivement, pour regarder un petit peu ce qui a été fait, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont effectivement sorti toutes les soldes d'un coup. Par contre, en fait, tout ce qui change, c'est qu'elles sont un petit peu plus difficiles à trouver. Et en réalité, ils mettent en avant des jeux différents chaque jour à 19h. Voilà. Donc en réalité, vous pouvez effectivement trouver tous les bons deals dès la sortie des soldes, mais... il faut quand même chercher un petit peu plus.
Ouais, et là où je trouve qu'ils sont super vicieux, c'est que les mecs qui sont pas au courant de l'actualité du jeu vidéo, quand ils voient que c'est marqué offre du jour,
ouais,
ils se disent que oh putain, ça y est, en fait, ils utilisent l'ignorance des gens.
C'est pas mal, hein.
Ils font genre, tu vois, attention, hein, si tu l'auras aujourd'hui, tu l'auras pas plus tard, tu vois. Ouais. Et alors qu'en fait, non, ça change que dalle.
C'est simplement des mises en avant, en fait.
Voilà, c'est des mises en avant.
Et donc, voilà, je m'attendais un petit peu à ça de leur part. Mais par contre, ce à quoi je m'attendais pas, c'était la petite carotte. La bonne grosse carotte dans le cul de l'utilisateur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc vous connaissez certainement Steam Spy, qui est en gros une application qui gère un petit peu pas mal de statistiques autour de la plateforme Steam.
En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les comptes Steam publics des utilisateurs, ouais. Ils regardent les jeux qu'il y a dessus, ils font des stats avec ça, ils ouais. surveillent aussi les prix, la montée, la descente des prix, etc.
Voilà.
Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans ce cas précis.
Exactement. Ainsi que Price Tracker, avec sa section Steam Prices, qui, pour le coup, ne fait que ça, c'est-à-dire regarde les évolutions des prix de certains jeux. Alors, on peut s'imaginer qu'en période de solde, les prix ont tendance à baisser. Eh bah, pas forcément, en fait, puisque Steam Spy et Price Tracker ont dévoilé qu'en réalité, le 25 novembre, c'est-à-dire la veille des soldes Steam d'automne, certains jeux et pas que des petits ont décidé d'augmenter leur prix juste avant de passer en solde. Ce qui fait qu'en réalité, on s'est rendu compte que avec les soldes, vous payez quand même plus cher que le prix au 25 novembre. C'est-à-dire que du 25 au 26 novembre, il y a eu un écart de prix qui était tel que malgré le moins 50%, le moins 25%, le moins 10% machin, vous payez quand même plus cher que la veille. Et là, c'est quand même sympa parce que je me suis rendu compte que moi, je me suis dit bon, il y a plein de jeux que je connais pas dans cette liste. Je pense que ça doit être que des petits jeux qu'on connaît pas, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour l'utilisateur. Mais je me suis rendu compte que Steam Prices avait une liste un petit peu plus complète avec des jeux qui sont pas sortis de nulle part. Je pensais par exemple aux deux Cyberia, bon, qui ont augmenté de simplement $2, ça va. Le fist fucking est pas énorme. Rome Total War Collection, pareil, $3. Et là, je me suis rendu compte, un petit peu plus tard, un petit peu plus loin sur cette liste, qu'il y avait quand même des mecs qui se sont dit, allez les gars, on va se gaver, de toute façon, personne va le voir. Alors, premier de ce top 3, on va dire le Lego Batman 3 Season Pass, qui est quand même passé de $14.99 le 25 novembre à $44.99 du 25 novembre au 26 novembre. Ok. Et vous pensiez avoir tout vu. Mais non, les mecs. Mais non, les mecs. Parce que le Season Pass de The Evil Within est passé de $19.99 à $79.98.
Combien, tu peux répéter?
$79.98.
Là, donc, pour être sûr que j'avais bien entendu le bon prix, quoi.
Donc, de 20 à $80. Donc, on a quand même une augmentation de 300% du 25 au 26 novembre. Ok?
C'est normal.
Et là, c'est là qu'ils sont doués, en fait, parce que le prix de base du jeu normal, c'est-à-dire sans Season Pass, est effectivement bradé. Il n'y a pas eu d'augmentation de ce genre. Par contre,
il y a combien le prix du jeu?
Attends, je vais te chercher ça tout de suite. Evil Within. Avec le, comment ça s'appelle? Avec le,
Season Pass?
Non, sans Season Pass, il est en solde à 9 euros. Au lieu de 60.
Le prix auquel je l'ai acheté, ok.
Voilà.
Et donc le Season Pass est plus cher que le jeu, quoi.
Et donc le Season Pass, bah voilà, ils l'ont passé en fait, si tu veux, à 80 euros,
mm-hmm.
ce qui n'était pas le cas avant. Et ils te disent en fait, les mecs, en fait, on vous fait moins 80%, on est quand même des oufs, on vous fait payer 15,99. Alors qu'en réalité, une journée avant, il était à 17 euros.
Ouais, mais il en reste encore un, mon cher Morvan.
Alors, il en reste encore un, parce que, en fait, là, c'est juste simplement pour vous montrer, en fait, comment la distribution de ces jeux fait prendre des vessies pour des lanternes à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il vous dit, eh les mecs, vous avez vu, il faut absolument que vous achetiez, on pourra pas faire plus bas, on est quand même à moins 80%. Alors qu'en réalité, vous payez à peine moins cher, et si, par certains à certains endroits d'ailleurs plus cher, que la veille sans solde. Et le dernier, et là pour le coup je pense que Tyran aura beaucoup de choses à dire, c'est Pillars of Eternity, vous savez, le jeu qui s'est financé sur Kickstarter, qui vous propose la Royal Edition Upgrade Pack. Donc en fait il y a pas d'extension là dans cette édition là, c'est simplement
de la merde. Non, mais faut
voilà, la soundtrack, enfin une nouvelle digitale, enfin bref, des petites gougouilles quoi. Il y a rien de véritablement oufissime qui demande absolument d'être acheté. Par contre, le 25 novembre, ils sont quand même passés d'un prix de $45 à $90 le 26 novembre. Et j'ai vérifié, c'est effectivement le cas aussi sur le Steam français. Et là, clairement, c'est pas exactement ce genre de choses. Enfin, c'est pas ce genre de choses auquel on est habitué de la part d'Obsidian. Et je pense que ça valait le coup quand même d'être évoqué.
Non, mais ils se foutent de notre gueule. Là. Enfin, attends. Les mecs, ils sont financés par Kickstarter. Ils te font un fist fucking auprès des joueurs. Enfin, on est où là? On est où? Enfin, moi, j'hallucine complètement là. Enfin, parce que si tu veux, en plus, ce que je comprends pas dans la démarche, c'est que bon, le jeu de base, par contre, c'est comme Heavy Within, hein, c'est-à-dire qu'il a gardé son prix et puis il a une solde, quoi.
Ouais.
Mais enfin, je comprends pas l'intérêt de la manœuvre de faire ça pour une Royal Edition de merde où il y a rien dedans. Et qu'est-ce que tu vas foutre en l'air ta réputation pour grappiller des miettes, quoi? Mais enfin, là j'avoue, quand j'ai vu que ça, j'ai halluciné total, quoi. J'ai fait, mais putain, mais... Dès que les mecs ils ont un peu de succès, ils prennent le melon et ils te la mettent bien profond, quoi. En gros, c'est ça.
Ouais.
Là, honnêtement, je vous avoue que je suis... quand j'ai vu ça, je suis extrêmement déçu. Mais extrêmement. Je pensais pas que un studio comme ça qui est plutôt proche de sa communauté a priori pouvait lui faire des doigts d'honneur comme ça. Alors je pense que la plupart des gens ne vont même pas le remarquer.
Non.
Pas comme c'est une Royal Edition dont tout le monde se fout. Enfin voilà, ils ont quand même entre guillemets été suffisamment intelligents pour pas faire ça sur le jeu de base, parce que là ils se seraient pris une shitstorm mais monstrueuse dans la tronche.
Ah
quoi.
Oui, c'est sûr.
Mais là, enfin, attends, tu payes plus cher le patch que hors solde, quoi. Enfin, c'est plus de la carotte, là. C'est un manque total de considération vis-à-vis de tes clients et de ta fanbase, quoi.
Et c'est là où c'est vicieux. Alors pour le coup, le côté Pillars of Eternity, je pense que concrètement, la Royal Edition n'a rien à apporter à l'utilisateur. En dehors du fait que, oui, effectivement, vous avez des contenus connexes qui sont liés au jeu, mais concrètement, vous en avez pas besoin de ces trucs-là. Un Season Pass, c'est différent, parce que concrètement, ce qui se passe en général, c'est que les gens ont déjà les jeux de base. Du coup, ils vont acheter en solde le Season Pass pour avoir les DLC qu'ils ont jamais eu. Et là, pour le coup, c'est là où c'est vicieux, parce que concrètement, en fait, The Evil Within et Lego Batman 3 vous vendent le Season Pass non seulement plus cher, Mais en plus, enfin, vous faites enculer dans la manœuvre, quoi. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Et pour le coup, là, c'est ce que tu disais hors enregistrement tout à l'heure, c'est que on en arrive en fait à des méthodes qui sont de l'ordre de la grande distribution concrètement. Mmh. Ça, c'est ce qui se fait, par exemple, juste avant les soldes de grands magasins ou juste avant les soldes de vêtements, les prix augmentent juste un peu. Pour que ça se voit pas trop, et de toute façon il y a très peu de gens qui vont vérifier les prix juste avant les soldes pour voir s'ils se font pas enculer, et derrière en fait on te fait croire que Mammouth écrase les prix alors que pas du tout quoi. Et
en fait en général ce qu'ils font c'est que avant Noël, excuse-moi de te couper Mordraine, c'est avant Noël en fait les prix augmentent, comme c'est là qu'ils vont faire en fait le plus gros chiffre d'affaires de l'année. Mm-hmm. Bah leur chiffre augmente de 20%. Par exemple, je sais pas, sur un vêtement on va dire tu vas acheter une veste, aller à 100 euros, à passer d'un coup à 120 euros. Et ce qui se passe, en fait, c'est que après, pendant les soldes, ils répercutent un peu de cette marge qu'ils ont augmentée sur la baisse. Et ils te disent, en gros, voilà, on a fait une solde de 20% dessus. Et en fait, ça correspond au prix avant. Et les gens, ils se disent, bah, attends, 20%, il faut que je l'achète parce que c'est une affaire en or, quoi. Et jamais j'aurais pris à ce prix-là, tu vois.
Ouais.
Et puis en fait, les gens le payent quasiment plus ou moins au prix qui était de base. Après, c'est pas comme ça pour tous les articles, parce qu'il y a vraiment des trucs qu'ils vendent pas là où ils les bradent à moins 75% oui, et tout ça.
Ça se fait beaucoup sur le matos informatique, notamment. C'est une mode, mais des soldes informatiques, c'est une vraie merde. Et c'est les gens qui s'intéressent un peu à ça savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des promotions, tu es systématiquement obligé de vérifier le cours des prix, parce que pour le coup on a des sites qui suivent le cours des prix en info, et pour voir si vraiment on n'est pas en train de carotter, quoi. Et ça arrive très très souvent en info, ça.
Et ben
oula, c'est vrai, c'est assez compliqué de tout suivre, j'imagine. C'est donc plus cher que la bourse, quoi.
Ouais. Donc, alors par contre je voulais quand même nuancer un peu par rapport à Pillars of Eternity. Pour moi c'est vraiment la carotte. Pourquoi? Parce que franchement, la Royal Edition là, avec le contenu de merde qu'il y a dedans, c'est qui va acheter ça? C'est pas le joueur de base.
Non,
c'est le fan.
C'est vrai.
Et donc ça veut dire que Obsidian prend ses fans pour des pigeons. Je suis désolé, hein, mais ça me navre de dire ça. Vous savez à quel point j'adore ce studio, hein, mais en tout cas pour ce qu'ils font en jeu vidéo. Mais là, en pratique commerciale, c'est l'irrespect total de ta fanbase. Donc c'est pour ça, moi, je veux pas trop non plus minimiser ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas du contenu qui apporte quelque chose au jeu, parce que quand même, les gens qui vont acheter ça, c'est leurs fans, quoi. C'est pas le joueur de base qui veut juste tester le jeu, quoi.
Après, est-ce que ils ont leur mot à dire sur Steam ou pas, par rapport à ça?
Bon, bien sûr.
Bah, bien sûr que oui.
Bien sûr.
Oui, oui, oui. Ils ont leur mot à dire. C'est pas Valve qui dit, tu vas augmenter ton prix, Coco, non.
Non, mais ça. Après, je sais pas, par exemple, si Valve peut se permettre de toucher au prix, comme ça, sans...
Non, tu peux pas toucher au prix. Attends, tu rigoles.
On en a bien parlé la semaine dernière, d'ailleurs, où on avait eu un mail de Valve aux éditeurs et aux développeurs qui avait fuité, en fait. Valve qui demandait aux éditeurs de ne pas préparer un tarif de solde flash, puisqu'il y en aurait plus. Donc voilà. Concrètement, en fait, là, pour le coup, Valve est totalement dédouané de ça, puisque c'est eux qui demandent aux développeurs et aux éditeurs de fixer leur prix. Et donc, c'est là où on en arrive à marcher sur la tête, parce que concrètement, c'est de l'irrespect total, d'autant plus pour un studio qui compte à ce point sur ses fans, quoi.
Mais voilà. Moi je trouve ça quand même assez choquant, enfin, de Evil Within. En gros, là, il a affiché à 16 euros, quoi.
Mm-hmm.
Et, si tu l'achetais, genre, au tarif normal, c'est, 25 euros, quoi, à la sortie du jeu.
Mm-hmm.
Pour avoir tout. Donc là, genre, ça fait comme si le DLC, ils te disent, en gros, que le Season Pass coûtait 80 euros. Mais moi, pour un DLC à 80 euros, je m'attends à un truc de ouf, quoi. Il faut vraiment que le jeu, je sais pas, il fasse la vaisselle chez moi après que j'ai fini de jouer, quoi. Parce que 80 balles, Season Pass, c'est un peu cher, quoi, pour un Season Pass.
Oh non, mais en plus,
c'est plus cher que le jeu de base.
Ce qui m'agace, en plus, c'est que ces cas qu'on a cités, là, c'est grossier, en plus.
Ouais.
C'est-à-dire que les mecs, ils sont fait aller yolo, quoi. Enfin, on y va.
Il y en a d'autres, qui sont pernicieux, hein, mais qui sont à de l'ordre de quelques dollars. Hein. Je viens juste de voir, par exemple, que Binding of Isaac Rebirth plus Afterbirth, le bundle, avait augmenté de 4 dollars. Donc, voilà, même les indépendants ne sont pas, ne sont pas exclus de ça. Donc, voilà, je pense que le mot de la fin, concrètement, c'est faites attention, même en période de solde Steam, c'est pas tant la fête que ça, en fait. Et il y a...
Je pense qu'on va mettre le lien vers les deux sites là, parce qu'il faut vraiment que les gens se renseignent avant, quoi.
Bien sûr.
Juste, je vous rassure, Obsidian, ils ont fait la même sur Google Games, hein, pour ceux qui se demanderaient. Hein.
Oui, ah bon, donc c'est pas sorti de nulle part, en fait, hein, visiblement. C'est que c'était prévu, quand même. Hein.
Oui, c'est pas genre, tu vois, c'est une erreur sur Steam. Non, ils ont fait la même chose sur Google Games. Donc,
D'accord, donc les gens maintenant sont au YOLO, ils se lâchent comme ça.
Sympa.
Non mais en fait là je sais pas quoi rajouter parce que enfin je suis choqué mais au sens véritable du terme quoi, c'est-à-dire que ça fait bizarre tu vois de voir un studio pour lequel t'as de l'estime comme ça tu te rends compte qu'en fait ils en ont rien à foutre quoi.
Non mais moi ce qui me choque le plus dans toute cette histoire c'est que c'est même pas subtil, quoi. Tu vois, encore, s'ils auraient fait le truc à 2-3 euros, comme on aurait dit tout à l'heure sur certains jeux, à la limite, ça peut passer, t'étais pas sûr, tu vois,
tu l'as vu une semaine avant. Au final, quand même gagnant, j'imagine, quand c'est 2-3 euros, mais...
Ouais, mais tu sais, genre, le jeu, tu le vois une semaine avant qui était sur Steam, genre, tu le vois, il est à 10 euros, puis là, tu vois qu'il passe d'un coup à 13 euros, tu te dis, ouais, t'étais pas sûr la semaine dernière si tu l'as vu à ce prix-là, donc ça peut passer, tu vois. Et là, passer à 80 euros, enfin, je suis désolé, quoi. c'est quand même assez flagrant, quoi.
Voilà.
Alors, juste pour préciser, je viens de vérifier, Binding of Isaac, Rebirth plus Afterbirth, en fait, il a augmenté de prix, en fait, il a pas simplement augmenté de prix, il est pas en solde, ce bundle-là. C'est un bundle qui vient juste d'apparaître. Donc, il est pas lié au coup de gueule que, voilà, c'est simplement une erreur de ma part. Donc, voilà, je retirons ce Binding of Isaac de ce coup de gueule.
Mais par contre, les autres sont bien des coups de gueule, quoi, et ceux-là, ils sont certifiés avec le label enculage à sec.
Bonjour messieurs, je vous propose qu'avec après cette formidable semaine d'actualité, nous arrêtions là. Je pense que il est temps de s'arrêter.
Je pense que tout est dit. Ouais.
Je suis légèrement agacé en plus. bien messieurs dames, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.
Salut,
ciao.